Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce mercredi soir 31 mars 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères en visite au Tadjikistan s'est entretenu avec le président afghan du processus de la paix en Afghanistan. La chute de Marib est dans quelques jours, selon les alliés en fait de l'Arabie Saoudite d'ailleurs, en ce qui concerne ces affrontements qui sont en cours à Marib où la résistance yéménite a remporté des victoires spectaculaires. Mali, une frappe française a tué 19 civils selon une enquête de l'Organisation des Nations Unies. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qui a participé à la 9e conférence ministérielle baptisée le processus d'Istanbul, cœur de l'Asie au Tadjikistan, a discuté avec le président afghan Ashraf Ghani du processus de paix en Afghanistan, des questions régionales et des relations bilatérales. Lors de cette rencontre, le président afghan, saluant les positions de la République islamique d'Iran envers les évolutions afghanes, a dit être prêt à élargir les relations de son pays dans tous les domaines avec la République islamique d'Iran et à organiser une commission conjointe pour la coopération économique bilatérale. La rencontre était également axée sur la paix en Afghanistan et la position de l'Iran dans l'instauration de la paix et de la stabilité en République islamique d'Iran. En visite au Tadjikistan pour participer à la 9e conférence ministérielle baptisée le processus d'Istanbul, cœur de l'Asie, le chef de la diplomatie iranienne a eu des rencontres bilatérales avec ses homologues tadjiks, azerbaïdjanais, indiens et afghans. Il a également rencontré le président tadjik Emem Ali Rahman. Avec la transition de la crise syrienne de la phase militaire à la phase politique, la communauté internationale doit faciliter cette transition Et à ce stade critique, il faut être sensible à la possibilité de la résurgence de Daesh et de l'émergence d'autres groupes terroristes, a déclaré l'ambassadeur d'Iran auprès de l'Union européenne. Selon le service médiatique de l'ambassade d'Iran en Belgique, la 5e édition de la conférence, baptisée « Soutenir l'avenir de la Syrie et de la région », s'est tenue mardi à Bruxelles. Lors de cette réunion, des responsables de nombreux pays du monde et de la région au niveau des vice-premiers ministres, des ministres des Affaires étrangères et des responsables d'organisations internationales ont exprimé leur position sur la crise syrienne. Ghulam Hossein Dehghani, ambassadeur d'Iran auprès de l'Union européenne, a représenté la République islamique d'Iran lors de cette conférence internationale. La crise syrienne est à sa 6e année. Cela montre de la mer réalité que la communauté internationale n'a pas de réelle volonté de résoudre cette crise sur la base du droit international, en particulier en respectant la souveraineté et l'intégrité de la Syrie, a déclaré ce haut diplomate iranien. Lors d'une visioconférence tenue le 30 mars, le président russe Vladimir Poutine, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont convenu sur la poursuite des dialogues et le maintien de l'accord sur le nucléaire iranien. Selon le correspondant de l'IRNA à Moscou, le président russe, la chancelière allemande et le président français se sont entretenus en visioconférence. Parmi les sujets qu'ils ont évoqués, le dossier nucléaire est iranien. Les trois dirigeants se sont accordés sur la poursuite des dialogues en vue de maintenir le plan global d'action conjoint de l'accord nucléaire iranien signé en 2015 entre l'Iran et le groupe 5+1 qui comprend la Russie, la Grande-Bretagne, la Chine, les États-Unis, la France et l'Allemagne. D'après les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, l'Iran a toujours respecté ses engagements dans le cadre de cet accord international renforcé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais en mai 2018, Donald Trump s'est retiré unilatéralement de l'accord nucléaire et a imposé des sanctions économiques à Téhéran. Yémen, la chute de Marib dans quelques jours. Des tribus fidèles à la coalition d'agression saoudo-émirati ont mis en garde contre une chute imminente de la ville de Marib située au nord du Yémen après l'effondrement des rangs des mercenaires de la coalition d'agression dans le nord-ouest de cette ville face aux forces de la résistance composée de l'armée et des comités populaires. Au cours des dernières 24 heures, les combattants de l'armée d'Ansar Allah yéménite ont réussi à transférer la bataille loin des camps des migrants dans la région d'Idat al-Dara, qui est désormais sous leur contrôle total, avançant vers le nord-ouest de l'épicentre de Marib. Toute cette progression a été réalisée en dépit des bombardements de la coalition d'agression saoudienne qui a en fait mené plus de 70 raids. Une des frappes a causé plusieurs morts dans les rangs de leurs mercenaires dans la région de Wadi Nakhla. Les forces d'occupation américaines ont transporté à bord des hélicoptères de 40 terroristes du réseau terroriste Daesh du prison d'Al-Hol à l'est de Hasaka vers leur base illégale à Shadadi dans la banlieue sud de la ville. Des sources civiles ont fait savoir à Sana que trois hélicoptères militaires appartenant aux forces d'occupation américaines avaient atterri dans la base de Shadadi avec à bord environ 40 terroristes du groupe terroriste Daesh qui ont été transportés de la prison d'Al-Hol qui est dirigée par les FTS en coopération avec les forces d'occupation américaines. Selon les sources, parmi les terroristes transportés figurent les terroristes terroristes irakiens, de Ziad Idris, nommé Abu Saif al-Iraki, et Najat Massoud Rizad, nommé Abi Bakr al-Furati, qui étaient des responsables de Daesh à Deresor. Mali, une frappe française a tué 19 civils selon une enquête de l'ONU. Une enquête des Nations Unies conclut qu'une frappe aérienne conduite par l'armée française au Mali en janvier a tué 19 civils réunis pour un mariage et non pas seulement des takfiristes, comme l'a soutenu Paris. Or, au terme de l'enquête menée par la division des droits de l'homme de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, appuyée par la police, des scientifiques des Nations Unies sur les événements survenus le 3 janvier près de Bountist, au centre du pays, la MINUSMA est en mesure de confirmer la tenue d'une célébration de mariage qui a rassemblé sur le lieu de la frappe une centaine de civils, parmi lesquels se trouvaient en fait 5 personnes armées, membres présumés de Katiba de Sarma, en fait d'affiliés Al-Qaïda, assure le résumé du rapport. Au moins 22 personnes ont été tuées, dont 3 membres présumés de la Katiba de Sarma, 19 sur le coup et 3 au cours de leur évacuation, affirme le document. Le groupe touché était très majoritairement composé de civils qui sont des personnes protégées contre les attaques au regard du droit international humanitaire, dit la MINUSMA. La MINUSMA recommande aux autorités maliennes et françaises de diligenter une enquête indépendante, crédible et transparente. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Document de coopération Iran-Chine, une nécessité stratégique, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Compte tenu du rôle croissant de la Chine dans l'équilibre des pouvoirs dans le monde, en particulier au niveau de l'économie internationale, il était nécessaire que l'Iran signe un document de coopération avec la Chine. Les rivaux régionaux de l'Iran ont également pris des mesures pareilles, a déclaré Nader Entesar, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'université de South Alabama. Dans une interview accordée au correspondant de l'IRNA, le docteur Nader Entesar a déclaré à propos de la signature du document de coopération stratégique Iran-Chine, « Pour le moment, l'importance de ce document est plutôt symbolique et montre la volonté de l'Iran de diversifier ou de multiplier sa politique étrangère. » Ce spécialiste de la justice légale dans les universités américaines n'a pas considéré le document de la coopération stratégique entre l'Iran et la Chine comme une obligation légale et contraignante pour Téhéran et a déclaré ce qui a été signé entre Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, et son homologue chinois Wang Yi, est un document de coopération et non un accord juridique. Par conséquent, sans la légalisation nécessaire, ce document ne crée pas d'obligations contraignantes et légales pour les deux parties. Compte tenu du rôle croissant de la Chine dans l'équilibre des pouvoirs dans le monde, en particulier au niveau de l'économie internationale, il était nécessaire que l'Iran signe un accord de coopération avec la Chine. En fait, dans une situation où les rivaux régionaux de l'Iran ont pris des mesures dans ce sens, l'Iran devrait également profiter de chaque occasion pour neutraliser les tentatives de ses rivaux et de ses ennemis et manœuvrer en conséquence, a précisé Nader Entesar. concernant l'impact des sanctions et les relations tendues entre l'Iran et l'Amérique sur la signature de ce document de coopération. Ce politologue irano-américain a noté, en tout état de cause, les relations tendues avec les États-Unis et l'avenir incertain des relations Iran-Occident ont été efficaces dans le procès qui aboutit à la signature de ce document. Selon ce professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'université de South Alabama, comme l'Iran l'a déclaré à plusieurs reprises, la signature de ce document ne se fait au détriment d'aucun pays et n'est qu'une feuille de route pour l'Iran et la Chine en vue de développer des relations bilatérales. Quant à la possibilité de la création d'une alliance entre Téhéran et Pékin dans les années à venir, il a souligné le document de coopération stratégique entre l'Iran et la Chine est le document le plus important que la République islamique d'Iran ait signé avec une puissance mondiale au cours des 40 dernières années. Évoquant les dimensions économiques, politiques et sécuritaires du document de coopération Iran-Chine, cet expert principal des affaires internationales a ajouté « La mise en œuvre et le succès des aspects économiques de ce document sont plus importants que d'autres aspects, car sans le développement des relations économiques irano-chinoises, il ne sera possible de transformer ces relations au niveau stratégique. » Faisant référence au projet de chinois lancé en 2013 par le président Xi Jinping afin de réanimer la route de la soie, le professeur Entesar a déclaré « L'initiative chinoise, une ceinture, une route, comprend un certain nombre de pays dont l'Iran. La situation géographique et les ressources de l'Iran ont accru l'importance de l'Iran dans ce projet. »
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors dans le débat d'aujourd'hui, nous allons parler de la Grande-Bretagne et de la France qui cherchent justement à accroître le pouvoir de la police, même si ceci doit coûter et coûte toujours la répression des manifestants pacifiques. Et tout ceci au milieu d'une censure historique médiatique. Voilà. Alors, malgré les interdictions de rassemblement, les Français, tout comme les Britanniques, n'hésitent pas à défier des lois lâches et honteuses qui consistent à accroître le pouvoir de la police, autrement dit, donc justifier la violence policière sans avoir le droit de les filmer. Alors, avant de vous présenter nos deux chers invités, je vous invite de regarder un reportage préparé par mes collègues. On sera avec vous juste après. Voyez, restez avec nous, je vous prie.
Après les manifs anti-loi sécuritaire en France, la vague arrive chez Sa Majesté et ce, au milieu d'une censure médiatique complètement historique. Bristol est à feu et à sang. Voici l'info diffusée par un média mainstream. En Angleterre, on rapporte 10 arrestations à Bristol après une manifestation qui a dégénéré. Vendredi soir, un rassemblement contre un projet de loi renforçant les pouvoirs de la police a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre anglaises. Une manifestation contre un projet de loi renforçant les pouvoirs de la police a dégénéré vendredi soir à Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre, et 10 personnes ont été arrêtées. Le Premier ministre Boris Johnson dénonçant des attaques honteuses à l'égard des policiers. La majorité des 1000 personnes réunies vendredi pour protester contre un projet de loi prévoyant notamment d'accroître les pouvoirs de la police face aux manifestations non violentes a agi pacifiquement, indiqué samedi l'officier Marc Renark, mais une minorité a une fois de plus fait preuve d'hostilité envers les policiers. Des objets, dont des bouteilles en verre et des briques, ont été lancés sur les agents, des feux d'artifice ont été lancés sur notre section équestre et l'un de nos chevaux a été recouvert de peinture, a-t-il détaillé dans un communiqué de la police d'Avon et du Somerset, dénonçant des comportements violents inacceptables. Au total, 10 personnes ont été arrêtées pour violence et agression. L'une d'entre elles a depuis été condamnée à une amende, tandis que les 9 autres sont toujours en garde à vue, précise le communiqué. Il s'agit de la 3e manifestation qui dégénère en l'espace d'une semaine à Bristol, où la police avait déjà procédé à 10 arrestations dimanche et 14 mardi.
Vous regardez l'émission Le Débat. Alors, comme j'ai promis, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour à tous vos auditeurs et bien sûr à votre invité.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un grand bonjour à M. Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris. Merci d'être avec nous, M. Hugon.
Oui, bonjour à vos auditeurs, à toute l'équipe et bien sûr à mon ami Pierre Dortiguier.
Je sais que vous êtes ami avec M. Dortiguier. M. Hugon, j'espère que ça ne va pas vous empêcher de vous contredire dans ce débat, car l'émission d'aujourd'hui s'appelle Le Débat. Alors, ma première question va s'adresser à vous, M. Hugon. Vous êtes un homme de terrain, donc vous connaissez bien les manifestations. C'est vrai que dans ce reportage, on a parlé plutôt de la Grande-Bretagne, mais il sera aussi question dans ce débat de la France, qui a utilisé l'interdiction de rassemblement à cause du Covid-19 pour empêcher donc les Français de manifester et de crier leur colère contre ces lois lâches et honteuses, qui consistent à justement accroître le pouvoir de la police.
Oui.
Monsieur Hugon, oui.
Alors,
oui.
Oui, je suis en ligne, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Voilà, alors en ce qui concerne le Covid-19, c'est bien sûr une catastrophe au niveau de la santé publique, domaine sanitaire. Maintenant, on se sert de ce problème-là posé au peuple en loi qu'il aurait été impossible de faire passer ou d'appliquer sur un plan politique. Donc c'est une véritable atteinte aujourd'hui aux libertés, d'autant plus que les gens, depuis un an maintenant, subissent le fait d'être cloîtrés chez eux, de ne pas pouvoir sortir. À terme, il est vrai qu'il est difficile de maintenir encore longtemps des gens comme ça dans leur chez eux, sans pouvoir sortir, sans pouvoir... Alors même si la situation sanitaire le veut, et je comprends tout à fait que sur un plan sanitaire, on impose aux gens de rester chez eux et que l'on impose un certain nombre de lois, mais au-delà de ce problème sanitaire, se pose le véritable problème de savoir pourquoi, comment on en est arrivé à des situations comme celle-là, si ce n'est que d'imposer un nombre de lois qui restreignent les libertés individuelles. Il est vrai qu'on a ce problème de surpopulation dans le monde, de surpopulation dans l'Union européenne et en France également. Donc il faudra bien trouver des mesures de façon à ce que l'on puisse maintenir les gens dans un niveau de vie qui soit abaissé par rapport à ce que l'on a connu ces dernières années. Il faut dire que les Français, les Européens et les Occidentaux, d'une manière générale, ont connu une époque extrêmement faste depuis une cinquantaine d'années aujourd'hui. Donc, il est clair que la situation financière dans le monde occidental ne permet plus aujourd'hui de maintenir ce niveau de vie. Et les Français, comme les Européens, ne sont pas du tout prêts à accepter les mesures de la situation financière. Donc, il n'y a rien de mieux qu'une situation sanitaire catastrophique pour imposer un certain nombre de lois et restreindre les libertés individuelles. Donc, c'est beaucoup plus grave qu'un simple problème sanitaire. Quand je dis simple, entre guillemets, bien sûr, puisque la situation est complexe sur le plan médical. Mais au-delà de tous ces problèmes sanitaires, se pose un véritable problème politique, un problème de liberté individuelle qu'on est en train de restreindre, de façon à contraindre les Français à vivre beaucoup plus petitement. Et c'est ça le véritable problème et la question que l'on doit se poser aujourd'hui.
Tout à fait. Monsieur Pierre Dortiguier, vous êtes avec nous depuis Toulouse. Vous avez entendu certainement les propos de Monsieur Hugon concernant cet outil qui a bien arrangé les choses pour les Français, pour le gouvernement français, d'empêcher les rassemblements et de réprimer donc de manière lâche les manifestants qui réclament donc le droit le plus élémentaire, qui est le droit individuel.
Écoutez, j'aimerais bien pouvoir m'opposer à ce que dit M. Hugon, oui. Mais là, je ne trouve pas, disons, les moyens. Je dois dire que j'ai cette situation sanitaire est en effet le cadre, disons, d'une restriction, d'un ralentissement de l'activité, et aussi entraîne un grand énervement dans la population. Population jeune, population d'abord avec des angoisses, des destructions, et aussi, il faut aller quand même plus loin, nous savons qu'il y a des suicides importants dans la jeunesse, des suicides parmi les chefs d'entreprise, des gens, enfin, nous le savons ici, par, disons, non pas de bouche à oreille, mais moi je le sais par d'anciens élèves qui sont des policiers, et qui me le disent, et bien sûr, ceci apparaîtra, cet énervement apparaîtra, disons, sous une forme, à mon avis, beaucoup plus violente, même anarchique, hein, dans les journées qui viennent. Pour ce qui est des manifestations, si je puis me permettre, auxquelles vous avez fait allusion à Bristol, je dirais que, d'abord, une considération générale pour ceux qui ne connaissent pas l'Angleterre. La personne du policier a toujours été respectée et très protégée en Angleterre. Vous savez qu'il suffisait de tuer un policier pour être condamné à mort, quel que soit le motif de l'exécution. Voyez-vous, on a été pendu. Ceci, je l'ai connu, disons, de mon temps, ce qui faisait que les policiers circulaient sans armes en Angleterre. Vous voyez, chose qui, évidemment, devient de plus en plus difficile. Quant aux manifestations en question, il est certain que elles sont, je reprendrai la citation que vous avez faite du policier, elles sont motivées, disons, mais ce motif, en réalité, pourrait être en fait un motif d'agitation proposé par certaines sphères pour pouvoir, justement, enfoncer la société dans des troubles permanents. Par exemple, c'est très facile, nous avons aussi en France des protestations contre le fait qu'on ne puisse pas photographier des manifestations, disons, des policiers. Mais on sait aussi qu'il y a eu pas mal de vengeance, il y a eu des exécutions de policiers par des gens. Il y a aussi, disons, dans des groupes donnés, je crois que personne, ni parmi les manifestants, ni parmi les policiers, ne pourrait, disons, démontrer l'inverse. Il y a également des agents provocateurs qui reçoivent de l'argent d'où c'est-à-dire de certaines forces. Certains disent M. Soros ou autres, enfin, qui sont là, nous l'avons vu à Paris, avec les manifestations de Traoré, par exemple, pour pouvoir vraiment provoquer des désordres et instaurer en France, comme en Angleterre, une sorte de défiance générale entre les populations immigrées et les populations de souche. Ceci, à mon avis, est très important et je dois dire que je ressens autour de moi, non pas dans mes proches, mais disons, en entendant des conversations, en observant des personnes qui discutent, il y a une certaine, disons, tension qui est grave. Et je dois dire qu'il y a une responsabilité des gouvernements. Je suis obligé d'être d'accord avec M. Hugon, quand même, je voudrais bien le contredire, mais qu'il y a, disons, une arrière-pensée de la part des gouvernants, voyez-vous, ici, chez nous, européens, en particulier pour pouvoir faire avancer, faire progresser la population dans une sorte de misère confortable. Et cela vous surprendra, mais voyez-vous, ce qu'on appelle le fameux salaire universel, dans ce sorte de recette, comme on dit, de réaménagement économique, me semble être une sorte, de partage du sous-développement. Je dirais, moi-même, étant d'une ancienne génération, ça me fait penser beaucoup au communisme que j'ai connu, au soviétisme que j'ai connu, et aussi en Yougoslavie, en ancienne Yougoslavie, dans laquelle vous avez des gens très riches, et puis des gens ensuite qui des classes moyennes complètement écrasées. Je crois que de ce point de vue, si tous les régimes en Europe au XXe siècle ont chuté, je pense que la vague bolchevique, si je puis dire, elle a un deuxième souffle, et malheureusement, j'aimerais bien ne pas le dire, mais je suis obligé de le constater, notre société s'enfonce, disons, dans une sorte de lutte civile, de méfiance civile, voyez-vous, réciproque. Et là-dessus, évidemment, ça paralyse complètement le corps social. Je répète, M. Hugon ne dira pas le camp l'inverse. Il y a d'ailleurs un affaiblissement très très net de la classe moyenne chez nous. Je crois que c'est dans tous les pays, mais particulièrement en France. Je diffusée particulièrement en France, dans toute l'Europe. Et en Angleterre, il y a évidemment cette immigration qui a été, qui est allée jusqu'à la mairie de Londres. Alors, vous avez des gens très bien dans l'immigration, naturellement. Mais il y a également des groupes qui viennent, disons, qui sont, comment vous dire, qui sont les clients de ceux qui les agitent.
Monsieur Hugon, Monsieur Dertiguier avance des propos très intéressants. Bon, je suppose que vous allez donc analyser ces propos. Oui, monsieur Hugon.
Oui, alors, je ne peux pas vraiment contredire Pierre Dertiguier, hein, puisque c'est exactement mon avis. On a actuellement une situation qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement conflictuelle entre non seulement les générations, mais les milieux sociaux, les nationalités, je dirais, différentes, en cette souche, et les Français d'origine étrangère. Je crois que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation qui est extrêmement complexe, que d'un point de vue économique. Donc on voit des gens qui vivent de plus en plus mal. Donc on va essayer, enfin l'État, du moins les États occidentaux, essayent par tous les moyens aujourd'hui d'abaisser le niveau de vie afin que les gens soient moins demandeurs financièrement.
Monsieur Hugon,
oui,
donc vous dites que bon, le gouvernement, que ce soit le gouvernement français que britannique, essaye donc d'habituer les Français et les Britanniques à une vie plus modeste.
Ah ben ça, c'est une certitude. Hein. Il faut bien savoir que le modèle occidental est un modèle qui est condamné et que les Français, comme les Européens et les Occidentaux, d'une manière générale, ont vécu dans une abondance, une opulence qui devient aujourd'hui insultante vis-à-vis des populations du monde. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les populations du monde occidental ne sont pas du tout prêtes à accepter ces nouvelles contraintes, cette nouvelle évolution, ce nouveau modèle de société, puisqu'on n'aura pas la possibilité de pouvoir maintenir un tel niveau de vie, et il faudra que les Français et les Occidentaux s'habituent à vivre d'une façon beaucoup plus modeste. On vit aujourd'hui d'une façon insolente vis-à-vis d'un grand nombre de peuples. Hein. Vous pouvez le voir d'ailleurs au Proche-Orient, au Moyen-Orient, ou en Amérique du Sud, enfin dans un grand nombre de pays, des gens qui ne bénéficient pas non seulement de couverture sociale, mais qui ne bénéficient pas non plus de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire que vous avez des tas de gens qui ne mangent pas à leur faim dans le monde. Donc notre modèle de société occidentale va disparaître, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que je dis aujourd'hui, ça ne changera rien aux réalités de la situation. Hein. J'ai eu récemment d'ailleurs un rapport sous les yeux, c'est les réserves de poissons en Polynésie française, et je rappelle que la Polynésie française, c'est la superficie de l'Europe, et bien ces réserves de poissons, ces réserves halieutiques, ont baissé de 70% en 10 ans, et on peut le voir également dans toutes les campagnes françaises, si vous ne mettez pas des engrais et des pesticides, vous n'arrivez plus à faire pousser une salade. Donc on va arriver dans le mur du problème alimentaire. Personne aujourd'hui, et aucun grand média, bien sûr, n'ose aborder le sujet, puisqu'elle mériterait, cette situation, de prendre un certain nombre de décisions qui ne vont pas dans le sens des politiques. Puisque les politiques, on sait très bien quels sont les besoins des politiques. C'est d'une part de se faire élire, et d'autre part de garder le pouvoir, de le conserver. Après, ce qui arrive après, ça ne nous concerne plus vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est de conquérir le pouvoir et de le garder. Donc, on sait très bien que les décisions, les bonnes décisions politiques ne seront jamais prises, puisque les politiciens occidentaux n'ont aucune conviction et n'ont aucun courage. On peut dire que politicien, aujourd'hui, dans le monde occidental, ça peut être synonyme de lâcheté. C'est tout à fait ce qui se passe. Et on arrivera, bien sûr, à une situation Absolument. Qui sera totalement ingérable. D'ailleurs, on peut constater aujourd'hui que ce cycle-là, ce cycle incontrôlable a déjà commencé et va nous amener dans une situation catastrophique dans les 8, 10, voire 12 ans qui viennent.
Pierre d'Ortiguier, est-ce que les Français ou les Britanniques sont prêts à s'habituer à ces contraintes, à cette nouvelle évolution?
Non, les Britanniques, plus que les Français, et je crois malheureusement que les Français ne sont pas du tout habitués à cela, parce qu'ils sont trompés, ils vivent dans l'illusion que, disons, prenons le XXe siècle, mais je ne veux pas aller loin, on a dit aux Français, vous êtes sortis vainqueurs de la guerre de 14-18, vous êtes sortis vainqueurs de la guerre de 39-45. Et un de nos généraux, qui était connu, qui était lieutenant, avait dit avant la guerre de 14, cette guerre est le suicide de l'Europe. C'est-à-dire que notre victoire a été fondée sur la naissance d'un pouvoir international, financier, voyez-vous, qui en réalité a modifié complètement la vision traditionnelle de la civilisation. Et ceci dans tous les pays. Et ça, en Orient, cela s'est produit par l'effondrement de l'Empire ottoman. Il avait des défauts, bien sûr, il a peut-être plus que des défauts, mais en fait, il avait quand même eu une certaine durée, disons, avec une coexistence des confessions. Il y a eu, vous savez comment votre pays, comment l'Iran a été traité au XXe siècle. Je crois que cette violence, disons, dans les rapports, cette loi, disons, de l'économie, pas dans le sens de l'économie traditionnelle, cette loi du plus fort, disons, elle s'est imposée, elle s'est aggravée après, justement, ce qu'on nous a présenté comme étant des victoires. En fait, notre victoire a été une défaite sur le plan social, sur le plan moral, je peux le dire comme professeur de philosophie, que j'étais longtemps, sur le plan culturel, évidemment, sur le plan éducatif. Là, on assiste, justement, c'est-à-dire que la violence dont vous parlez, monsieur, aujourd'hui, c'est une violence qui va s'accroître. Et là, je rejoins Philippe Hugon d'une autre façon. Parce que les générations que l'on... On ne les prépare pas. On les encadre, mais sans les préparer, sans leur donner une confiance morale, sans leur ouvrir les yeux sur autre chose que la consommation immédiate, vous voyez. Tout ceci a été un rêve. Un rêve matériel réel, mais un rêve cependant, dans les années 80-90. Et maintenant, nous payons ce rêve. Monsieur, je dirais une dernière chose. Je suis obligé de soutenir M. Hugon, mais de donner une citation d'un de nos grands ministres, qui était Raymond Barre, qui était professeur d'économie, vous savez, c'est au Giscard d'Estaing. Il a dit un jour à la Chambre des députés, la France vit au-dessus de ses moyens. Bien. Et en effet, nous vivions à crédit. Quand le socialisme est venu en France avec M. Mitterrand, nous avons demandé à des créditeurs, disons, c'était, vous savez, l'Arabie Saoudite, entre autres, par exemple, de nous donner de l'argent pour payer des fonctionnaires ou des cadres. Ceci, c'était une politique aveugle. C'était une politique là, qui n'avait pas de sens. Et elle, en plus, nous nous mettons à dos l'ensemble du monde, vous le savez, avec la politique de M. Sarkozy contre la Libye, etc., la politique anglaise, la politique de Mme Clinton et autres. Et je dois dire que nous avons devant nous des bouleversements profonds. Ça, c'est un point. Ce qui est grave, et très très grave, c'est que nos jeunes générations, ou les générations, disons, jusqu'à 40 ans, 50 ans, ne sont pas prêtes mentalement, moralement, je ne dis pas religieusement, puisque nous avons ici, pour ne pas garantir religieuse, ici, très très forte, très très forte, vous savez, dans l'enfance en particulier, dans les écoles, eh bien, elle n'est pas prête à comprendre la situation, et donc par la même à la supporter. C'est pour ça qu'il y a des vagues de suicides. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup de suicides, mais je n'avais jamais entendu parler autant de suicides d'étudiants qu'aujourd'hui, par exemple. Voyez-vous ? Et c'est ça qui va se convertir en violence, qui se convertit déjà, nous avons des signes, des attaques. Alors, évidemment, ça peut prendre des formes politiques, avec des slogans politiques, mais en réalité, c'est un bouleversement social. Et là-dessus, il faut que tous les peuples sachent qu'ils sont, c'est ça ma conclusion, sachent qu'ils ont affaire à la même situation, à des degrés différents, mais que nous sommes solidaires quand même dans le malheur.
Oui, Monsieur Philippe Hugon, pour terminer, qu'est-ce qui attend la France et la Grande-Bretagne dans les années à venir? Est-ce que ces manifestations vont se multiplier? Alors pourquoi les gouvernements, en adoptant des lois lâches, provoquent la jeune génération de manifester?
Oui, alors, ces manifestations non seulement vont se multiplier, mais vont s'amplifier, puisqu'il y a une situation financière qui, malheureusement, se dégrade d'année en année. On va arriver, bien sûr, à un point de rupture dans les années qui viennent, je ne dis pas que c'est pour demain, mais pour après-demain, je dirais 8, 10, 12 ans. On va arriver à une situation tellement tellement critique que les gens vont tomber dans une violence inouïe, une violence inimaginable. Moi, je dirais que les Français n'imaginent pas à quel point leur situation va changer dans les 10 ans qui viennent. C'est pour eux, c'est une chose impensable et inconcevable que l'on puisse se retrouver dans une situation aussi catastrophique. Malheureusement, cette situation va bien sûr s'aggraver et on verra d'ailleurs de nombreuses personnes y étaient dormies, puisque je pense que si on veut maintenir, si les États veulent maintenir une certaine force, eh bien ils en viendront à tirer sur les populations comme l'ont fait certains pays en Europe il y a quelques dizaines d'années, hein, puisqu'on va arriver à une telle anarchie. Hein, dont on le voit déjà pour des petites choses, hein, qui créent déjà des situations qui sont délicates, mais dès l'instant où le système financier s'effondre, puisque ça c'est même plus discutable, la seule question aujourd'hui c'est de savoir quand cette situation, ce point de basculement va arriver, mais ça va tomber non seulement dans une extrême violence, mais ça va être d'une extrême rapidité. Et je pense que ça c'est quelque chose que même les États ont du mal à pouvoir contrôler au niveau du temps, je parle bien sûr, hein, mais la situation va devenir extrêmement catastrophique et ne pourra pas être récupérée puisqu'il n'y aura plus la confiance dans rien. Toutes nos bases vont s'effondrer, qu'elles soient économiques, sociales, plus personne ne pourra compter sur personne. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on arrivera à cette situation et qui sera bien sûr totalement incontrôlable dans les années qui viennent. On le voit déjà aujourd'hui, la situation devient de plus en plus critique, et même avec des voies sanitaires, on voit beaucoup de Français défier ces voies sanitaires, et pas seulement en France, mais c'est dans l'ensemble du monde occidental. Et le jour où tout ceci va basculer, eh bien ce sera vraiment extrêmement dangereux, extrêmement grave pour nos situations politiques dans le monde occidental.
Surtout, M. Gon, cette situation économique est désastreuse, un pays en faillite, je me rappelle que vous disiez dans le débat précédent de la France.
Ah oui, ben la France est en faillite financière, mais les États-Unis sont également dans une faillite financière. L'Allemagne est dans une faillite financière, la Grande-Bretagne est dans une faillite financière. L'ensemble du monde occidental a vécu depuis 50 ans très au-dessus de ses moyens financiers. Alors, tant qu'on avait un développement économique à 18, hein, on pouvait, la croissance permettait d'absorber ce déficit. Aujourd'hui, on n'a plus de croissance, ce n'est pas vrai, on est en décroissance, particulièrement maintenant avec ce problème de Covid. Donc, l'Union européenne et les États-Unis sont en faillite financière. Donc, je rappelle quand même que face au Covid, on a imprimé 600 milliards d'euros de fausses monnaies. Quand je dis de fausse monnaie, c'est parce que c'est une monnaie qui n'est adossée à aucune sécurité derrière. Elle n'est adossée à aucune garantie derrière. Donc ce n'est plus ni moins que la fausse monnaie. Donc ce système-là peut durer un certain nombre d'années, mais on arrivera à une situation qui sera inextricable et seul un effondrement financier permettra de remettre les choses au point. Le problème, c'est que cet effondrement financier va créer un nombre de catastrophes familiales, sociales. Ça va être effroyable. Je vous dis bien, personne aujourd'hui n'imagine à quel point la situation sera terrible.
Philippe Hugon, reporter de guerre et analyste politique depuis Paris, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir apporté donc beaucoup de précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Guerre des monnaies à l'ère numérique. La monnaie n'est acceptée que si et seulement si elle bénéficie d'une solide confiance et conserve sa valeur. Cette notion prend tout son sens à l'ère numérique et ses fondements resteront immuables, quelle que soit sa forme à l'avenir. Le bitcoin a ainsi pris ses racines dans la défiance vis-à-vis du système bancaire et financier qui a engrangé une crise grave en 2008. Il s'agit désormais de fonder la confiance sur la monnaie, non plus sur les institutions, mais sur une technologie, des algorithmes et l'infaillibilité de la cryptographie. Faire confiance à la robustesse des mathématiques. L'objectif du protocole Bitcoin est d'avoir un processus d'information qui soit transparent, décentralisé, infalsifiable, indéchiffrable et inviolable grâce aux propriétés de la cryptographie. Là où le Bitcoin a été conçu comme un moyen de paiement, il en devient un instrument de spéculation. Mais comment accélérer la cadence en Europe sur les devises de face à l'avance et la domination technologique des GAFAM? L'Europe a pris du retard dans cette compétition. L'absence d'intégration des paiements en Europe signifie que les prestataires étrangers ont pris de l'avance, ce qui n'est pas sans risque, insiste Christine Lagarde. Amazon Web Services, AWS, a été le premier à proposer la solution de cloud computing, devenue aujourd'hui la plus utilisée dans le monde. Amazon et Microsoft contrôlent la moitié du marché, et génère à eux seuls un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars en 2020. La souveraineté numérique met en évidence la nécessité pour la France et l'Europe de faire émerger de nouveaux acteurs technologiques pour contrer les risques d'ingérence de puissances étrangères et de dépendance des États face à des géants technologiques extra-européens. Le développement d'une monnaie numérique n'a de sens en effet que par un affranchissement de toute dépendance technologique étrangère pour une protection effective de la souveraineté numérique. L'accélération de la cadence technologique implique le recours des acteurs français et européens afin de leur permettre d'atteindre des niveaux de puissance technique, à commencer par les banques d'État, au risque de rater le tournant de la révolution numérique nouvelle génération. Tandis que l'Europe explore, la Chine avance à grands pas dans le déploiement de sa monnaie numérique, poussée par les défis économiques causés par la crise sanitaire. L'or est désormais au lancement de programmes pilotes dans plusieurs grandes villes de Chine afin de tester la fiabilité, la stabilité et la disponibilité du système, ainsi que la gestion des risques liés à la monnaie. Le yuan numérique ne repose pas sur la technologie blockchain, mais sur une technologie dite de registre distribué. Inspirée de la blockchain, mais dotée d'une infrastructure centralisée et souveraine permettant un contrôle intégral par un gouvernement central. Cette technologie est le résultat de 4 années de recherche tenant à régler la contradiction entre la technologie blockchain et les principes de la monnaie nationale chinoise centralisée et réglementée. Le principe de la souveraineté politique et l'idée même du symbole politique semblent nettement remis en question par l'émergence des crypto-monnaies et par-delà de l'émergence d'un nouveau paradigme prédit par Engels, tirant les conclusions de son analyse historique. Le gouvernement des personnes fait place à l'administration des choses. Le secteur privé continuera ainsi d'innover. L'ère du numérique porte une accélération plus rapide et imprévisible des besoins et des attentes, besoins qui pourraient nécessiter dans le futur de nouvelles formes de monnaie. Lorsque la Chine y décèle une menace quant à la capacité de contrôle sur les individus et son contrôle des échanges, la France y voit, avec bienveillance, une opportunité alimentée par une volonté de ne pas rater une nouvelle fois le virage de l'innovation et de la transformation. Les États-Unis possèdent cette culture de l'innovation qui reste néanmoins empreinte d'hésitation. Les autorités monétaires, financières, fédérales et nationales tenant des discours discordants. Au-delà des débats autour de la légitimité de l'action des États sur la monnaie, les crypto-monnaies nous renvoient au fondement de la monnaie, la confiance. une confiance qui ne pourra être portée que par un système de régulation transnationale, par opposition à une action de contrainte ou de laisser-faire intégral. Une régulation qui supposera l'existence de règles de jeu admises dans l'intérêt commun et d'institutions compétentes de les faire respecter. Le secteur privé est à même d'innover et de prendre les risques inhérents à cette innovation, à charge pour le secteur public de veiller à ce que ces risques ne se répercutent ni sur les utilisateurs ni sur le système financier par l'instauration d'une situation de monopole, voire d'anarchie. L'enjeu de la régulation est de pouvoir allier dans un cadre légal solide la promotion de l'innovation, la protection et la vie privée des consommateurs, la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ainsi que la stabilité et la résilience. La monnaie de banque centrale restera essentielle afin de garantir l'interopérabilité, la stabilité, par conséquent la confiance dans les autres formes de monnaie, tout en permettant leur évolution et leur diversité. Enfin, une régulation n'aura de sens que dans un cadre unifié, harmonisé et transnational à l'image d'une technologie par essence universelle. Or, comment définir un ordre monétaire international qui soit à la fois multilatéral et polycentrique ? Polycentrique au travers des zones monétaires régionales avec potentiellement une monnaie dominante de référence au sein d'une zone qui aurait une influence large. Multilatéral par opposition à un unilatéralisme porté par un avantage exorbitant d'une devise clé. Or, il ne peut y avoir de système polycentrique avec un fonds monétaire international défini selon les rapports de force de Bretton Woods. L'innovation du système monétaire international comme moteur de stabilité et de croissance universelle ne pourra se soustraire d'un remodelage des pouvoirs au sein du FMI comme organe de gouvernance mondiale, sa coexistence avec des zones monétaires régionales ouvertes et souples et une coexistence de monnaie publique et privée.